Salut, c'est Jean-Luc pour un nouveau Rêve Baroque sur Radio BLV. Aujourd'hui, une émission un peu particulière que j'aurais pu appeler comme le superbe film de Paul Newman de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites ou de l'influence de la musique baroque sur la musique d'aujourd'hui. Mais tout cela me semble un peu trop sérieux et j'ai préféré titrer cette émission « Sport et divertissement avec la musique baroque ». Un petit jeu avec ma discothèque de laquelle j'ai extrait ce passé qui se confond avec le présent. Allez, c'est parti, musique. Ravel, Debussy, Satie, Prokofiev, ces quatre compositeurs du XXe siècle se sont intéressés à la musique du passé. Debussy a rendu hommage à Rameau, Satie a écrit des sonates à l'ancienne avec tous ces titres qu'on connaît, morceaux en forme de poire, etc., etc. Ravel, lui, va plus loin et écrit le tombeau de Couperin avec toutes les formes de danse de Couperin, menuet, prélude, fugue, toccata, etc. Et Prokofiev fait de même dans son opus 12 pour piano. Je vous propose d'entendre enchaîner la toccata de Ravel, donc extrait de son hommage à François Couperin, et un extrait de l'opus 10 de Prokofiev. À travers un superbe disque de la pianiste Natalia Milstein, qui a choisi de jouer ces deux compositeurs dans ce disque et qui nous dit ce qui les rassemble. Je vous lis son texte. Figure de la modernité en France et en Russie, Prokofiev et Ravel se sont intéressés aux formes anciennes de la suite de danse. Au travers d'un langage baroque réinventé, leurs recherches compositionnelles mettent en lumière toute la richesse de leur monde musical. Le tombeau de Couperin de Ravel et la quatrième sonate de Prokofiev sont liés aux souvenirs de leurs dédicataires. Dans des temps marqués par la guerre et les bouleversements historiques du début du XXe siècle, entre mémoire et imaginaire, les œuvres dialoguent. Thank you. C'est Natalia Milstein qui nous interprétait cette toccata de Prokofiev. Précédemment, elle nous a joué également une toccata de Ravel. Et pour terminer par Prokofiev, donc cette toccata où on sent l'inspiration de Bach, un Bach qui aurait peut-être un peu perdu la tête. Bach, eh ben, parlons-en, Bach et le jazz. Rien de plus facile à faire swinger Bach. Et un des premiers à l'avoir essayé, c'est Django Reinhardt. Django, guitariste, créateur du jazz manouche, trois petits points d'interrogation, mais non, pas vraiment, plutôt créateur de sa propre musique, cas peut-être unique dans l'histoire de la musique. On l'écoute s'amuser avec Jean-Sébastien Bach, intro et improvisation autour d'une... Il a choisi le concerto pour deux violons de Bach, avec donc son illustre ami qui a partagé toute sa musique, Stéphane Grappelli. C'était Django Reinhardt et Stéphane Grappelli qui nous faisaient swinguer Bach en interprétant son concerto pour violon en ré majeur. Un autre jazzman qui a connu un relativement important succès dans les années 70 avec des disques consacrés à Bach, à Chopin, à Handel. Il fait jazzer tout ce beau monde, c'est Jacques Loussier qui va nous jouer le premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach avec sa propre image, sa propre interprétation, improvisation.
Thank you.
c'était Jacques Loussier qui nous interprétait un morceau de Bach que vous avez reconnu, le premier prélude du clavier bien tempéré. Plus près de nous, un autre pianiste de jazz italien, Enrico Piranunzi, qui s'est lui aussi amusé à travers un disque où il mélange allègrement Bach, Handel, Scarlatti. Écoutons-le avec Handel nous offrir le thème et son ressenti sur ce thème, un capriccio, un enchaînement magistral. Musique. Thank you. C'est Enrico Piranunzi, grand pianiste de jazz italien, qui s'amusait, nous amusait avec la musique de Handel, un capriccio de Handel. Restons encore avec le jazz, avec deux musiciens, Jerry Mulligan, saxophoniste baryton, qui a créé un quartet sans piano avec Chet Baker, et Paul Desmond, connu comme le saxophoniste alto de Dave Brubeck avec son fameux Take Five. C'est l'art de la fugue porté à son degré ultime de complicité, une série d'entrelacs transparents, légérissimes, le badinage est sublime. Thank you. Magnifique, un entrelac presque amoureux entre Paul Desmond et Jerry Mulligan. On continue avec le jazz et avec Monteverdi. Monteverdi, le Lamento d'Ariana, donc un madrigal qu'il a écrit d'abord pour voix seule et puis ensuite pour quatre voix. Je vais vous proposer d'écouter le début, le thème de ce Lamento d'Ariana. Et ensuite, un groupe emblématique du free jazz, l'Art Ensemble of Chicago. L'Art Ensemble of Chicago avec Lester Bowie à la trompette, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman au saxo, aux flûtes, aux différentes percussions et autres instruments. Et en 1970, ils enregistrent la musique d'un film qui n'est pas resté dans l'histoire du cinéma, Les Stances à Sophie. Et allez savoir pourquoi, ils s'intéressent à un thème de Monteverdi, donc ce fameux Lamento d'Ariana. Ils en écrivent deux versions. Une pour voix seule, je dirais, pour la trompette de Lester Bowie, et ensuite une improvisation du même Lester Bowie. Donc écoutons ce que font l'Art Ensemble of Chicago sur ce thème de Monteverdi, en écoutant tout d'abord la version princeps du Lamento d'Ariana.
Et que volé, que volé, que volé, et mi con.
c'était l'Art Ensemble of Chicago avec Lester Bowie à la trompette qui nous interprétait le Lamento d'Ariana de Monteverdi. Venons-en maintenant à la musique dite contemporaine avec le courant musique répétitive ou appelé aussi minimaliste, un courant créé par les compositeurs Terry Riley et Lamonte Young, apôtres d'une musique psychédélique dans les années 60-70 avec les premiers claviers électriques. Les compositeurs américains également, Steve Reich, John Adams, Philip Glass, suivront cette voie. Une influence peut-être sans l'avouer, mais évidente, les quelques notes de basse répétées accompagnant bien souvent les thèmes de la musique baroque. Donc écoutons comme exemple la Folia de Corelli, auquel peut-être Philip Glass a pensé dans son quatuor numéro 3. Thank you. Nous venons d'écouter un extrait du Quatuor numéro 3 de Philippe Glass. Et maintenant, amusons-nous. Amusons-nous avec Cathy Barberian, une mezzo-soprano, hélas trop tôt disparue, qui savait tout chanter, de Monteverdi à John Cage. Son mari, le compositeur italien Luciano Berio, lui a écrit ses canzacates pour voix seule, et elle a elle-même écrit Stripsody, un chant sur un comics des années 40. Et s'est amusée à chanter les Beatles, mais les Beatles comme un opéra de Handel, A Ticket to Ride. Elle est formidable. Et oui, je vous l'avais bien dit, elle est formidable, c'est Cathy Barberian qui chantait bien sûr un morceau des Beatles, Ticket to Ride. Maintenant, changement d'atmosphère avec un disque de l'ensemble vocal Accentus dirigé par Laurence Sekilbé. Un disque de transcription d'œuvres instrumentales adaptées pour chœur. Chopin, Mahler, Debussy, réinventé par Laurence Sekilbé, qui réécrit à la façon des motets de Bach, telle cette étude de Chopin qu'elle nomme Lacrimosa, un parfum italien du XVIIe siècle pour Chopin.
Thank you.
venez d'écouter une étude de Chopin interprétée pour chœur par l'ensemble de Laurence et Kidbé, l'ensemble vocal Accentus. Voilà, et pour terminer cette émission, un compositeur français, Vincent Dindy, créé au début du XXe siècle une école appelée la Schola Cantorum, une école qui existe toujours d'ailleurs, où il propose à ses élèves de travailler sur un répertoire ancien allant de Monteverdi à Bach, ainsi qu'une redécouverte de la musique française du XVIIe et XVIIIe siècle. Il écrit un trio pour violon, violoncelle, piano, qu'il nomme Suite ancienne et que je vous propose d'écouter. Nous terminerons cette émission avec Vincent Dindy, une émission aujourd'hui un petit peu fourre-tout. Je vous ai parlé de jazz, de musique répétitive, etc. La prochaine émission, je la consacrerai à Venise. Je vous amènerai voyager à Venise du 15e au 18e siècle. Voilà vos gondoles donc pour la prochaine émission. Et je vous souhaite une bonne quinzaine et faites de beaux rêves baroques. Thank you.